Isabelle Mateos Hilaogo, bonjour, vous êtes la directrice des études économiques de BNP Paribas. Emmanuel Combes en face de vous, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur à la Schema Business School, vous êtes senior advisor chez Image7 et co-auteur de Le transport aérien, la découverte. Ce sujet aérien est donc pour vous.
Denis bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Rexecode. On commence peut-être avec notre sujet budgétaire et c'est pas cette interview dans le Figaro ce matin, mais enfin, il y a quelques pistes de François Bayrou qui commence à préparer les esprits pour faire en sorte qu'on fasse des économies. Isabelle Mateos Hilaogo, qu'est-ce que vous préférez comme piste? Est-ce que vous préférez l'année blanche? Est-ce que vous préférez la TVA sociale? Est-ce que vous voulez vous attaquer aux niches fiscales? Quel est le scénario économique que vous préconisez?
Bonjour Laure, bonjour à tous. Tout d'abord, je dirais que c'est extrêmement important que ce débat avance. Moi, je reviens de deux semaines en Asie et je peux vous dire que c'est une question qui m'a été posée dans toutes les réunions, le monde entier.
Quand est-ce qu'on va faire des économies?
Oui, regarde ce qui se passe dans le débat budgétaire en France et quand est-ce qu'enfin la France va trouver une solution à son problème de dette publique. Donc c'est vraiment un sujet important, c'est pas juste du nombrilisme franco-français de s'atteler à trouver une solution. L'enjeu est majeur. Sans mesures additionnelles, le déficit resterait sur une pente de 6% un horizon indéfini. Ça a été confirmé par le FMI aussi très très récemment. Donc, il faut trouver des pistes d'ajustement budgétaire de l'ordre de 1% par an pour atteindre l'objectif de ramener le déficit à 3% en 2029. Bon, la plupart des pistes qui ont été évoquées jusqu'à maintenant touche à la fiscalité, alors que véritablement, là où la France sort du lot, c'est sur les dépenses. On a un niveau de dépenses publiques qui est plus élevé qu'avant le Covid. On est à peu près le seul pays européen dans cette situation. Et ceci résulte en partie du fait que toutes les prestations sociales, toutes les dépenses publiques ont progressé soit au niveau du PIB, soit plus rapidement que le PIB, alors que les recettes, elles, ont progressé moins rapidement. Et donc, toutes les pistes qui visent à dire « Ah ben, il faut encore augmenter la fiscalité », moi, j'ai un petit peu de mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toucher à rien. Il y a effectivement un sujet de niche fiscale qui a d'ailleurs été identifié par le FMI comme un sujet à regarder de près. Ces niches fiscales ont tendance à être inefficientes, à poser des problèmes de complexité, d'opacité, d'équité éventuellement. Donc ça, c'est absolument un sujet à regarder. Mais pour ce qui est de taxer davantage, et en particulier l'idée de taxer la consommation, alors que la consommation, c'est 75% du PIB, et que la France a un taux d'épargne record, on est à 18,8% d'épargne contre 15% avant la pandémie. On est l'un des rares pays européens encore où le taux d'épargne n'a pas commencé à baisser. Moi, ça me paraît un petit peu contre-productif.
Donc, on n'est toujours pas sur le sujet dépenses, Emmanuel Combes, Denis Ferrand.
Oui, c'est vrai que
on n'arrive pas à s'attaquer à ce sujet.
Mais si on pouvait consacrer à peu près 10% du temps que l'on consacre à parler de fiscalité, à adresser vraiment le sujet de dépenses, on aurait déjà fait un grand pas en avant. Parce que c'est vrai que, mais pour autant, le diagnostic a été fait récemment. Rappelez-vous ce croquis qui a été montré lors du rendez-vous du président de la République dernièrement, où il montrait la répartition des grandes masses, où on voit bien qu'il y a un bloc qui emporte en réalité plus de la moitié des dépenses, qui est le bloc des dépenses sociales, que ce soit les prestations pour la santé, que ce soit aussi les prestations, bien entendu, de retraite. Mais derrière, pour bien comprendre aussi ce que représente la dépense, en fait, la première des étapes, c'est d'avoir une connaissance du signal prix. Par exemple, est-ce que vous savez aujourd'hui, quand vous avez un accident de santé, est-ce que vous savez combien vous allez payer ou combien la collectivité paye sur la prise en charge de cette dépense.
Donc, tout ce qui n'a pas de prix est gratuit, quoi.
Tout ce qui n'a pas de prix est gratuit et d'une certaine manière, vous ne créez pas le frein spontané qui viendrait de la connaissance
de
la dépense. Il y a déjà une connaissance de l'addition qui est à faire pour toute opération. Je pense que c'est déjà le préalable. Donc, il y a une forme aussi d'éducation qui est importante. Et puis après, effectivement, on vient très rapidement sur les niches fiscales. Mais quand on réfléchit sur les manières d'ajuster les niches fiscales qui sont parées de tous les maux. Et c'est vrai que certaines, en fait, on se dit, mais elles sont totalement inefficaces ou elles sont anti-redistributives. On va penser, par exemple, à la niche fiscale pour l'emploi à domicile. On sait très bien que ça profite principalement à des personnes qui ont un niveau de rémunération plutôt plus élevé que la moyenne. Et donc, la niche fiscale, effectivement, va être dans le viseur.
Vous demandez à O2 s'il est d'accord pour arrêter avec la niche fiscale sur le travail.
C'est pas gagné.
Il va vous dire, moi, ma concurrence, c'est le travail au noir. Direct, je mets des gens au chômage.
Deux choses. C'est qu'effectivement, il faut regarder la redistribution immédiate qui est introduite par la niche fiscale. Donc, effectivement, c'est anti-redistributif parce que ça bénéficie aux personnes qui ont les plus hauts revenus. Mais c'est aussi anti-redistributif à long terme, pour les raisons que vous évoquez. S'il n'y a pas la niche fiscale, il y aurait plus de travail au noir. Et ce faisant, qui est-ce qui est perdant? Eh bien, ce sont les salariés qui, en réalité, vont devenir des travailleurs noirs, ne vont pas accumuler des droits pour leur retraite ultérieure. Et là, ça devient vraiment, vraiment problématique. Et surtout, les niches fiscales doivent toujours être regardées par rapport à la déviation qu'elles viennent corriger.
C'est ça quand même le sujet. Oui. C'est qu'au départ, il y a un peu trop de charges.
Il y a un peu trop de charges à l'origine. Et donc, si vous regardez la niche fiscale sans regarder le motif pour lequel on a mis en place cette niche fiscale et qui souvent procède d'une surintervention de l'État, alors vous faites
comme
simplement la
charges,
moitié,
hein.
Voilà, comme les allègements de charges, la moitié du chemin.
Moi, je répondrais à votre question de deux manières. Il y a le court terme. Oui, il faut faire des économies. Je crois pas qu'il y a grand chose, malheureusement, à gratter. Enfin, le déficit primaire, c'est quoi? 110 milliards, à peu près? 120 milliards? C'est pas, il faut raboter les niches fiscales pour des raisons symboliques. Mmh. Parce qu'en effet, c'est foncièrement injuste.
Mais du côté. Comme les privés, quoi.
Voilà. Donc, du côté de la fiscalité, je rejoins Isabelle. Du côté de la fiscalité, on peut pas faire grand chose. Vu le taux de pression fiscale, c'est quoi? 48% à peu près, un des plus élevés de l'OCDE. Donc, oui, il faut afficher, il faut montrer qu'on fait des choses. Mais c'est pas là-dessus qu'on va significativement jouer. Donc, du côté des recettes, j'y crois pas. Du côté des dépenses, et là, je serais pas tout à fait d'accord avec Isabelle, la France aime la dépense publique. Surtout parce qu'elle a pas de signal, hein. On a toujours l'impression que tout est gratuit en France. Je crois qu'il y a pas de marge de manœuvre. Mais il y a qu'une troisième solution, et on la connaît cette solution. Genre, les économistes en parlent depuis 10 ans, mais on les écoute pas. Si vous voulez avoir plus de recettes fiscales, il faut que le gâteau soit plus gros. Le gâteau, ça s'appelle le PIB, la richesse. On ne produit pas assez en France, mais on le sait. Enfin, on l'a dit 50 fois sur ce plateau, mais il faut le redire une nouvelle fois. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui participent activement, c'est 69% en France. En Allemagne, qui est pas un pays anglo-saxon ultra-libéral, 77%. Si les Français travaillaient collectivement, pas individuellement, souvent on me dit « Ah, vous voulez qu'on travaille plus ?» Non, collectivement. Si on travaillait à peu près comme les Allemands, il y aurait à peu près 3 millions d'emplois en plus, hein, c'est ça, hein. 3 millions d'emplois en plus, ça fait à peu près 10% de PIB. Le PIB de la France, c'est 2900 milliards. 10% de 2900, ça fait 290 milliards. 280 milliards, le taux de pression fiscale, c'est quoi? 48%? Ça ferait 140 milliards de recettes fiscales. Vous avez un déficit primaire de 120 milliards. Vous auriez même un excédent. Bah oui, mais ça veut dire qu'il faut faire des réformes structurelles dont on ne parle jamais. Alors, on parle du côté retraite. Il y a aussi le problème de l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Pourquoi, finalement, collectivement, il n'y a pas assez de production? Parce qu'on entre assez tard sur le marché du travail.
Mais il n'y a plus de jeunes. Vous l'avez dit dans le sommaire, c'est fini.
Bah oui,
il y a des vieux.
Bah oui. Alors que le Conseil d'analyse économique a remis, je lisais la tribune de Xavier Jaravel hier dans les Échos, a expliqué qu'on a un énorme problème avec l'éducation. Alors, je dis pas qu'il faut pas débattre entre nous, hein, c'est important, TVA, alors est-ce qu'on augmente la CSG de 8,3 à 9,2? Tout ça, c'est très bien, il faut le faire. Mais c'est pas avec ça que vous allez revenir,
Denis,
dans les clous.
On règle le problème, ouais. On travaille plus et...
Oui, en fait, il faut toujours se retourner vers les laboratoires et il y a un laboratoire qui est exceptionnel pour comprendre ce qui se passe quand une économie vieillit, c'est le Japon. Et le Japon, bien, on sait, il a exporté du capital. Ouais. Enfin, Jean-Marc Daniel le répète à satiété sur ce plateau, il a raison.
Vous le récitez par cœur, si vous voulez.
Mais également, ce qui est très important, c'est de regarder le taux d'emploi, et en particulier le taux d'emploi féminin, c'est au Japon qu'il est le plus élevé, alors que pendant très longtemps, on avait la représentation d'une économie qui emploie très peu les femmes. Et donc, en fait, ils ont affronté à bras le corps cet objectif, cet enjeu de faire face au vieillissement, notamment en mobilisant plus la population qui est en emploi.
Isabelle,
je crois que les deux solutions ne sont pas du tout mutuellement exclusives, et en fait, l'ampleur du défi est telle qu'il faut effectivement, je pense qu'il y a un vrai effort à faire sur les dépenses. Et quand on parle de faire un effort sur les dépenses, il ne s'agit pas de réduire les dépenses, il s'agit de les réduire en pourcentage du PIB. Donc il suffit juste qu'elles augmentent moins rapidement que la croissance. Donc c'est pas aussi alarmant que ça peut en avoir. Et je pense que si, les Français aiment la dépense publique, en partie parce qu'il n'y a pas assez de signal prix. Mais si vous me dites qu'à 57% du PIB, on ne peut pas faire d'efforts supplémentaires, moi j'ai du mal à y croire. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, mais d'après même les prévisions du ministère des Finances, la charge d'intérêt de la dette va s'alourdir structurellement du fait du profil de maturité, même si on n'a pas de scénario très pessimiste sur l'évolution des taux. On est juste au-dessus de 2% du PIB de charge d'intérêt de la dette. Ça devrait passer jusqu'à 3,5-3,6% à l'horizon 2029. Donc ça, il faut trouver des économies à mettre en face de ça. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a un petit sujet défense nationale, où, comme vous le savez, il y a une pression très très forte des États-Unis de s'engager à 5%, à passer les dépenses de défense à 5% du PIB, alors qu'on est pour l'instant sur une trajectoire à 3%. Et donc, il y a un effort très important à faire, et je suis absolument d'accord avec Emmanuel. Il va falloir aussi trouver des moyens d'augmenter le potentiel de
Donc on va devoir faire les deux, baisser les dépenses et augmenter les recettes.
C'est pas le même horizon temporel. C'est pas le même. Tout le débat budgétaire, recettes, dépenses, c'est, on va dire, du court terme. Là, on parle de réformes structurelles. Les effets sur le taux d'emploi, c'est dans 4 ans, 5 ans, mais on n'en parle jamais. Or, les solutions, en plus, on les connaît. Et les Français, ils peuvent l'entendre. On en parle souvent avec Denis. Un exemple très concret, il y a des femmes qui disent vouloir travailler plus, et elles ne le peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de solution de garderie. Donc, c'est du temps partiel contraint. Il y a des personnes, je crois que c'est 2 millions de personnes qui sont des aidants, qui aident un parent âgé, un handicapé. S'il y avait des, vous voyez, des choses très concrètes. Il y a des jeunes qui ne prennent pas d'emploi, c'est un de mes dadas, parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire, parce qu'en France, c'est compliqué.
Et vous allez lancer une baisse des dépenses et une réforme des retraites en même temps, histoire d'avoir les deux horizons.
C'est pas que la réforme des retraites.
Vous n'avez pas été élu, sachez-le.
Pas que les retraites.
À force de procrastiner, il faut tout faire en même temps aussi. C'est un peu ça le problème, c'est qu'effectivement tous les enjeux viennent en même temps. Et peut-être j'ajoute un point sur la défense. Il y a une étude intéressante qui a été faite par l'Institut de Kiel récemment, qui a regardé sur les 100 dernières années qu'est-ce qui se passe quand on doit augmenter les dépenses de défense. Et donc ils ont pris, il y a une cinquantaine d'exemples de pays qui ont dû augmenter les dépenses de défense. Et bien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que en même temps, ils ont augmenté les dépenses autres que celles liées à la défense. Donc il faut faire attention à l'idée que la dépense de défense va se substituer à la dépense sociale. L'histoire montre qu'en réalité, les deux sont allés de concert. D'où l'urgence vraiment de créer les éléments qui viennent la contenir.
Isabelle, je reviens à votre tournée en Asie, parce que la semaine dernière, notamment avec les économistes qui faisaient, les experts, on parlait de la possibilité d'un accident de crédit de la France. Est-ce que vous sentez une crainte sur la dette française? Est-ce que vous voyez le taux qui pourrait augmenter, notamment si l'Allemagne se met à émettre beaucoup de dettes avec une sorte de compétition entre nos deux pays qui aujourd'hui n'existent quasiment pas parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande?
Non, effectivement, pour l'instant, ce qu'on a vu et les évolutions de taux de marché le montrent très clairement. Le spread entre les taux français et les taux allemands a plutôt eu tendance à se stabiliser, voire même à se réduire. Donc il y a pour l'instant un effet d'entraînement, je dirais, positif, où les investisseurs se disent finalement ce surcroît de dépenses publiques en Allemagne va bénéficier à la croissance non seulement de l'Allemagne mais aussi de ses voisins. Donc on en bénéficie. Mais c'est un sujet d'inquiétude, et je pense que si à l'approche du vrai débat budgétaire, on ne voit pas de piste de solution, et que par ailleurs les investisseurs étrangers restent assez inquiets de ce qu'ils perçoivent comme une situation politique très instable, sans doute de manière exagérée, mais toujours est-il que c'est ça la perception, les marchés regardent de près. Donc je pense qu'il faut avancer de manière résolue sur ce terrain-là.
Isabelle, la TVA sociale, vous êtes contre, j'ai bien compris. Emmanuel?
Même chose. Enfin, quand on regarde les simulations macro et la DG Trésor en affaires, on voit que l'effet net n'est pas extraordinaire. Vous aurez un effet pouvoir d'achat. Il y a toujours le risque aussi qu'on ait une course des salaires, hein. C'est-à-dire en réalité que comme les prix augmentent, vous avez une boucle prix-salaire. Quand on fait un bouclage macro, à nouveau, c'est pas la solution alpha méga.
À la fin, on a juste augmenté les prix, quoi.
Non, on a un effet, je crois qu'il y a un effet qui est marginal, mais je veux dire, c'est pas avec ça qu'on résout le problème. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, pour revenir à votre question tout à l'heure, je le répète, je dis pas qu'il faut pas avoir, il faut envoyer des signaux. De toute façon, au marché, c'est super important, les signaux. Il faut montrer qu'on bouge. Donc, sur les recettes, sur les dépenses. Mais c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème. Il y a trois sujets. Il y a recettes, dépenses, éducation. J'entends rien là-dessus. On a quand même des NITS hein, en France, hein, des personnes qui sont sans emploi, sans formation. Le sujet de la productivité, alors c'est sûr que les gains de productivité, je crois, repartent en France.
Hein, l'éducation est le premier sujet économique.
Mais c'est les vrais sujets. Et ce sujet, on l'a pas. On va vous dire, mais quelle est la relation entre le déficit budgétaire et l'éducation? C'est le sujet. Ça, et les gains de productivité, vous résolvez vos deux problèmes. C'est pas moi qui le dis, enfin, c'est tous les économistes.
Denis.
Oui, sur la TVA sociale, il y a des effets à court terme qui sont quand même plutôt défavorables et il faut attendre quand même quelques années avant de voir des manifestations, des effets. Mais on est déjà dans une situation où on a des niveaux d'allègement qui sont très élevés, où on a une pente des allègements qui est très forte et qui incite à la création d'emplois faiblement qualifiés. Et donc, la TVA sociale, elle doit aussi s'envisager au regard de la correction des déséquilibres que l'on a introduit, qui en réalité vient pénaliser l'emploi qualifié. Espérer un retour de productivité alors que l'on fait tout pour dissuader l'emploi qualifié relativement à l'emploi non qualifié, c'est quand même une quête assez vaine.
Sur la question de l'année blanche, Isabelle, Matteo Silago, là, est-ce que, puisqu'on n'arrive pas à mettre en place des baisses de dépenses, est-ce que ça, au moins, c'est un moindre mal? On stoppe tout, on gèle et puis...
Je crois que la question du gel est effectivement une piste à explorer. La France a tout indexé sur l'inflation depuis la pandémie, et donc est l'un des rares pays qui n'a pas bénéficié en termes de réduction de sa dette publique ou de son déficit public de la poussée d'inflation. À certains égards, on a même surindexé certaines prestations sociales. Donc oui, c'est une piste à regarder absolument.
Manuel. Vous allez me redire que le problème, c'est l'éducation.
Non. Il y a des choses à faire. Par exemple, pour la CSG, moi, je suis choqué. Les dépenses sociales, ça profite à tout le monde, hein, pas seulement à ceux qui travaillent. Ça profite aussi aux retraités. Alors, on va y venir tout à l'heure. La France est un pays de retraités et de rentiers. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Fouché. Mais c'est pas normal que le taux de CSG soit réduit. Enfin, au nom de quoi? Donc là, il y a peut-être une piste. Alors, je sais pas combien ça rapporterait de passer la CSG de 8 à 9,2%. Ça, c'est un truc classique d'injustice sociale. Et je pense que les Français peuvent l'entendre, en tout cas, peut-être pas politiquement, puisque majoritairement,
ce sont les
retraités qui votent. Mais en tout cas, la population, parce que les jeunes existent, hein, même s'ils ne votent pas, ils existent. Leur expliquer que tout le monde profite de la protection sociale, et notamment les plus âgés, il n'y a pas de raison intellectuelle, philosophique, pour qu'ils payent une CSG plus faible, notamment, on est bien d'accord, une CSG à partir d'un certain niveau de retraite. Hein, je crois que ça toucherait 5 millions de retraités. Donc, on ne parle pas de faire payer le retraité qui a une toute petite retraite. Mais vous voyez, ça, c'est une piste quand même assez simple, qui est, assez, me semble-t-il, assez audible. Mais je le répète, ce n'est pas avec ça que vous allez réduire significativement votre problème.
On reviendra au sujet de l'éducation. Denis.
Oui, sur l'année blanche, en fait, le signal que cela envoie, je trouve, c'est que c'est un non-choix, d'une certaine manière. Et en réalité, on l'a évoqué au moment des niches fiscales, c'est parce qu'on ne choisit pas véritablement l'espace d'intervention de l'État. Les niches fiscales, là encore, il faut toujours le redire, viennent corriger toujours un déséquilibre qui a été introduit par ailleurs par une surintervention, par une surfiscalisation. Et donc, on ne résout pas le problème avec le gel, parce qu'en gros, on fige la situation et on n'ajuste pas le niveau de dépenses, en particulier les collectivités locales dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. On ne réfléchit pas à l'organisation de l'État, l'administration et au périmètre d'intervention. Et
attention, Laure, toute dépense n'est pas une dépense de conso, ça peut être une dépense d'investissement. Enfin, toutes les dépenses publiques ne se valent pas. Je veux dire, une dépense dans l'enseignement supérieur coupée. Enfin, je crois qu'il y a eu des coupes, hein, sur l'enseignement supérieur. Et je dis pas ça parce que je suis professeur d'université. A priori, quand on regarde les études économiques, l'investissement en R&D en recherche, ça a quand même un impact à long terme sur la croissance. Donc, toute dépense enfin, l'idée de geler tout de manière uniforme, c'est de finalement laisser croire que 1 euro de dépense.
Tout est pareil.
Bah oui,
c'est le non-choix, c'est ce que
c'est pas la même chose.
On choisit pas.
Toute dépense publique n'est pas illégitime, au-delà des dépenses régaliennes.
Mais si on ne peut rien faire, si on ne peut rien voter à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Isabelle ?
Non, mais c'est exactement ça le sujet. C'est pas un first best, je dirais. Mais si on ne fait rien, le déficit retourne sur un niveau de 6%. Et là, on va se faire punir par les marchés. C'est très clair. Et là, on entre dans une dynamique très, très néfaste. Donc, si les équilibres politiques ne permettent pas de faire des choix, bah, il faudra quand même prendre des mesures. Et bon, voilà, ça peut en être une qui limite les dégâts.
D'autant que le contexte a quand même bien changé sur les marchés financiers. Enfin, quand vous voyez des taux japonais qui tangentent les 3%, c'est de l'inédit sur 30 ans. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Les alertes de Jamie Dimon récemment sur la dette américaine. Donc, on voit bien que ok, le spread s'est peut-être resserré un petit peu tout dernièrement avec l'Allemagne, mais les inquiétudes ne font aller que crescendo d'une manière générale sur l'ensemble des titres obligataires, pas seulement sur la dette française. Absolument. Mais progressivement, c'est chacun ceux qui seront les plus fragiles, qui seront les plus exposés.
Avec la crainte, à un moment, Isabelle, qu'il y ait trop de dettes sur le marché, globalement, on a vu une adjudication américaine qui s'est pas très bien passée il y a 10 jours. Est-ce qu'à un moment donné, il y a trop de choses à financer? On parlait de l'armement, il y a le déficit américain. Est-ce qu'à un moment donné, le marché ne peut plus absorber?
Le marché peut toujours absorber. La question, c'est à quel prix? Et il est clair qu'il y a eu des émissions qui se sont mal passées aux États-Unis, au Japon. Et donc, oui, il y a eu des mouvements de taux assez violents, en partie sur la partie la plus longue de la courbe, où il y a des questions de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et oui, je pense qu'il faut tous se préparer à un scénario dans lequel les taux à long terme, en particulier, augmentent, parce que il y a beaucoup d'émissions de dette et puis moins d'appétence des marchés pour l'absorber.
Vous ne bougez pas, vous gardez tout ce que vous avez envie de me dire. On marque une pause, on revient dans un instant, les experts.
Les experts, débat et controverse sur BFM Business.